partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Jean-Christophe Porte, une nouvelle fois, est avec nous sur IDFM Radio. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Christophe.
Journaliste avant d'écrire des romans, journaliste pour la télé, pour différentes chaînes.
J'ai travaillé pour, pratiquement toutes les chaînes, donc TF1, M6, France 2 et pas mal de documentaires pour France 5.
Et puis derrière, vous avez écrit avec une quinzaine de romans, du suspense, de l'intrigue, du meurtre aussi. Et systématiquement, il y a des meurtres dans vos romans, Jean-Christophe Porte.
Ça arrive souvent parce que c'est des thrillers, donc il y a du danger, et donc il y a du danger de mort. Mais c'est pas une intrigue classique, un peu à la Hercule Poirot, où il y a forcément un meurtre au début avec le commissaire machin qui va enquêter. C'est pas toujours comme ça, c'est même presque jamais comme ça en fait.
Donc vous êtes du Val d'Oise aussi, je le reprécise, de Margency. Vous êtes déjà venu présenter l'un de vos romans. On parlait d'Hercule Poirot. Agatha Christie, vous vous inspirez de toute façon un petit peu de tout ça, de temps en temps, même si c'est pas effectivement à 100% du Hercule Poirot. Mais il y a toujours des enquêteurs, il y a la police, il y a... Bon, à la base, c'est quand même des romans historiques. Hein. Vous aimez l'histoire, vous êtes curieux et vous voulez donner ça aussi à votre lectorat.
Je suis un petit peu parti là-dessus par hasard, et puis comme j'ai fait une première série qui se passe sous la Révolution et qui a eu des lecteurs qui ont suivi, donc j'ai continué dans cette veine-là, parce que les lecteurs veulent savoir à la fois comment le héros va évoluer, les gens autour de lui, qui s'appelle Victor d'Hauterive, et puis voir comment l'histoire avance, et puis j'ai repris le même principe avec une nouvelle série qui commence avec deux personnages cette fois-ci.
Donc Victor, c'est pas tout à fait Hercule Poirot alors?
Non,
c'est un enquêteur quand même, bien sûr. Oui.
Il est enquêteur, mais il est aussi agent de renseignement ou espion. Il est pas que enquêteur. C'est-à-dire, c'est vraiment pas la forme de. Il y a un meurtre mystérieux et l'enquêteur doit résoudre le meurtre comme Maigret ou Hercule Poirot. Il est plus dans des situations de danger. C'est un peu plus du thriller. C'est-à-dire qu'on lui confie des missions qui sont pas forcément des missions criminelles et qui le mêlent à la grande histoire et qui le mettent en danger et l'amènent à côtoyer les personnages connus de l'époque. Et puis à essayer de résoudre, de sauver sa peau parfois tout simplement, et puis de résoudre un peu les énigmes qui se présentent à lui.
Vous avez regardé, vous regardez encore des séries policières avec ces anciens inspecteurs, mais aussi les nouveaux, les séries sur toutes les plateformes, etc.
Oui, je regarde des séries, mais qui sont justement moins des séries d'enquête que des séries de suspense. Par exemple, j'ai beaucoup aimé une série qui s'appelle Boardwalk Empire de Martin Scorsese ou Les Sopranos. Donc c'est pas forcément policier au sens pur du terme, avec encore une fois l'enquêteur qui doit résoudre une énigme. C'est aussi des personnages qui évoluent dans des situations complexe. C'est plus ça, je pense, qui m'intéresse moi et qui plaît au lecteur, en fait.
Les enquêtes de Victor d'Hauterive, ça existe depuis 2015.
Oui.
Et ça continue parce que le dernier ouvrage est sorti l'année dernière. C'était La femme aux doigts d'or.
Ça continue toujours. Donc, c'était le tome 7 qui se passe au moment l'histoire, en fait, l'intrigue est reliée au procès du roi. Et puis ça continue, le prochain tome il est écrit, il va paraître soit à la fin de l'année, soit en 2024, et il va se passer au début des guerres de Vendée. Donc je prends toujours un décor comme ça, un fait historique, et puis je greffe dessus l'histoire personnelle de Victor et de tous ceux qui l'entourent.
Et Victor, donc pour le tome 7, ça se passe au moment de l'hiver. Vous aimez bien cette saison, justement, ou pas? Une saison où il fait froid, où la nuit tombe rapidement. Donc est-ce que les crimes, justement, ont lieu plus sur cette période ou pas? Ouais, parce qu'il y a une ambiance assez glaciale, particulière.
Il y a une ambiance, oui, qui est particulière. Alors s'ils sont pas tous... en fait, chaque épisode pour cette série de Dauterive, c'est environ 3 mois de l'histoire. Donc environ, il y a trois tomes par année. Donc c'est vrai que il y a des tomes qui se passent en hiver, et c'est vrai aussi que à ce moment-là, on était loin du réchauffement climatique et les hivers étaient extrêmement rigoureux. Mmh. Et puis ça permet aussi de retranscrire la période, parce que c'est une période où il y avait beaucoup de misère, et donc les gens souffraient beaucoup du froid. Enfin, c'était des conditions différentes. Donc j'essaye de me servir de ça vraiment comme décor, et puis un petit peu, oui, comme personnage, parce que voilà, l'hiver à 1780 1792, 1793, c'est quelque chose de très particulier. Donc ça sert pour renforcer le sentiment du lecteur de replonger dans l'époque.
Et ça se passe souvent à Paris aussi ou pas forcément, les enquêtes?
Alors,
en général,
pour Dautrive, ça se passe fréquemment à Paris parce que les grands événements se passent à Paris, mais il peut arriver que Victor Dautrive soit envoyé en mission en Belgique ou à Londres, enfin voilà, c'est pas figé à Paris, mais c'est vrai que beaucoup d'événements se passent dans la capitale.
Comme le dernier d'ailleurs qui s'appelle Oscar Wagner a disparu, c'est sorti le 1er mars, on va en parler d'ici quelques minutes. Donc ces enquêtes se poursuivent de Victor Dautrive, c'est de la fiction, c'est de la réalité, c'est un mélange aussi d'un petit peu tout ça.
C'est vraiment un mélange des deux, c'est-à-dire que moi quand je croise les lecteurs, ils me demandent toujours, vraiment systématiquement, est-ce que le fond historique est vrai? Donc je leur réponds oui. En fait, je travaille pour ces livres comme j'ai travaillé pour les documentaires en lisant beaucoup de livres, en me renseignant, en allant aux sources et puis ensuite en essayant de faire une espèce de somme de tout ça pour que ça paraisse le plus exact possible, pour que les gens aient vraiment l'impression d'être dans le moment. Et puis à ça, il y a toujours une intrigue criminelle ou d'espionnage qui est greffée dessus, mais qui est vraiment imbriquée avec la grande histoire. Donc c'est vraiment un mélange des deux, avec des héros qui croisent les personnages réels de l'époque. Ça fait partie du plaisir des lecteurs.
À chaque fois, dans chaque roman, il y a toujours à peu près la même trame. On y va tranquillement, on pose les fondamentaux, et plus on arrive sur le crime, où on peut directement démarrer avec scène de meurtre. Ça dépend.
J'essaie de pas avoir de trame qui soit toujours la même, justement. J'essaie de faire en sorte que l'action commence toujours au début. Et ce que j'essaye de faire aussi, c'est qu'en fait, l'action du début est pas forcément reliée à la fin, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Comme dans un roman classique, le héros est confronté à une situation dangereuse ou nouvelle ou différente. Et ensuite, ça évolue vers autre chose qui n'était pas forcément attendu au départ. Donc c'est le cas du dernier Dautrive où voilà, il escorte une troupe d'acteurs à Bruxelles que les Français viennent de conquérir. Et puis en fait, c'est relié à une histoire qui est liée au procès du roi.
Ça, c'est pas sorti encore.
Celui-là, il est sorti. C'est La femme au doigt d'or.
C'est celui c'est le tome 7. Et le prochain, donc, il arrive très vite là.
Hein. Il arrive à la fin de l'année ou au début de l'année 2024.
Vous savez à quel moment vous allez arrêter les enquêtes de Victor Dautrive?
J'arrêterai quand il y aura plus de lecteurs, en fait. Donc,
carrément.
Si les gens lisent pas, je vais arrêter d'écrire, ce sera simple. Après, j'ai pas de plan établi à l'avance. Donc, je vois en fonction de ce que font les héros et de vers quoi ça les mène.
C'est presque un peu à l'infini, si on veut, en fait. On peut faire vivre ce personnage.
S'il y a pas de lassitude.
30 ans, 40 ans.
Ouais, s'il y a pas de lassitude. Après, peut-être que je vais avoir aussi envie d'explorer la période après la Révolution, c'est-à-dire le consulat, il arrive au pouvoir de Bonaparte. Ça fait partie des idées. Donc, peut-être que c'est ça qui va se passer, mais j'ai pas de plan défini à l'avance. C'est ce qui plaît, je pense, aux gens qui lisent, c'est que justement le fait que ça évolue vraiment, les personnages évoluent avec l'histoire.
Donc pour l'instant, ça se passe principalement au XVIIIe siècle, hein, les enquêtes.
Pour l'instant, c'est vraiment la Révolution. Donc c'est tous les événements qui ont suivi la prise de la Bastille, qui mènent à la mort du roi, et ensuite qui vont mener à ce qu'on a appelé la Terreur. Donc je m'appuie là-dessus, sur tous ces événements qui sont tous inattendus en fait, pour faire évoluer Victor Dautrive et tous ceux qui l'entourent.
Donc avec des belles coiffes aussi, on s'imagine, hein. C'est une époque particulière, c'est pour ça que vous l'avez choisi aussi.
C'est le plaisir de replonger dans l'époque et puis de voir comment les gens s'habillaient dans des conditions sociales et matérielles très différentes d'aujourd'hui, mais avec une humanité qui reste la même. Les hommes n'ont pas changé sur le fond.
Et puis les enquêtes policières ont évolué aussi. Maintenant, il y a d'autres techniques pour trouver les criminels, machines impressionnantes. Ouais. Qu'à l'époque, c'était peut-être... c'était différent, mais plus complexe aussi pour trouver un criminel.
C'était plus complexe parce que, par exemple, pour signaler une personne, on disait, voilà, il est assez grand, il a le visage un peu rond, il est châtain. Bon, aujourd'hui, on connaît la taille exacte, on connaît les yeux, on connaît son empreinte de doigt. Enfin, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, par exemple, pour identifier une personne à l'époque, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de caméra de surveillance. Donc, évidemment, les conditions d'enquête sont complètement différentes, mais ça permet justement de vraiment replonger dans l'époque.
Vous êtes journaliste, on l'a dit, vous l'êtes toujours, même si vous faites plus d'autres documentaires pour toutes ces chaînes de télé que vous avez citées, M6 ou TF1.
Mais dans l'esprit, toujours.
En écrivant plus tous ces romans, il y a un côté journalistique de toute façon.
Et oui, il y a un côté
mener l'enquête.
Oui, puis un côté effectivement de mener une enquête, et puis un côté documentaire aussi. Vraiment d'essayer d'avoir un regard précis et neutre sur la période. Et en fait, ceux qui donnent la couleur politique quand il y en a, c'est les personnages. C'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas mon point de vue. C'est vraiment ce que j'ai compris de l'époque avec les documents de l'époque. Et ensuite de retranscrire ça pour le lecteur. Voilà. Pour qu'il ait vraiment la sensation d'être dans le moment avec l'incertitude du moment sans savoir ce qui va se passer après.
C'est de l'investigation, ce que vous faisiez à la télé aussi?
C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça, c'est vraiment de...
fouiner, oui. Appuyer sur des choses qui n'ont pas été suffisamment mises en avant aussi.
Oui, c'est ça, je m'amuse parfois à aller chercher des choses voilà, qui sont un peu évoquées, mais que à demi-mot, donc d'aller fouiller derrière pour certains événements. Et puis d'avoir un point de vue vraiment le plus neutre possible, c'est-à-dire quand je raconte un événement, ben je raconte ce qui s'est passé sans cacher des choses qui m'auraient déplu ou des voilà, j'ai pas cet esprit-là, donc ça effectivement je garde l'esprit de journaliste pour le décor. Et après, de romancier pour les histoires, évidemment.
Jean-Christophe Porte, vous avez travaillé un petit peu avec des historiens ou pas? Alors, vous avez fait vos recherches un petit peu tout seul aussi?
Alors moi, j'ai beaucoup fait de recherches tout seul, justement, parce que le problème de la Révolution, pour cette période-là, c'est que c'est très politisé, en fait, dans les récits, donc il faut essayer de se faire son opinion par soi-même. Mais j'ai un peu travaillé avec, certains historiens pour leur demander leur avis, en fait, voilà, pour leur demander est-ce que ça vous paraît cohérent. Et bon, ça m'a rassuré.
Donc vous avez été dans pas mal de bibliothèques aussi, internet, parce que faut
beaucoup d'internet.
Faut regrouper aussi plusieurs informations pour arriver à la meilleure information. Vous le savez de toute façon en tant que
journaliste.
Oui, c'est
ça. Mais c'est vraiment d'aller sur internet. Il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées, beaucoup de documents de l'époque. Il y a des livres qui sont des livres assez pointus, donc j'achète beaucoup de livres d'occasion. Et puis je vais chercher des petits trucs comme ça et en me disant bah voilà là ça c'est quelque chose c'est dit à demi-mot donc qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui se cache derrière, donc c'est vraiment cette démarche là oui.
Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Porte, auteur de différents romans, valdoisien, de Margency plus précisément. Dans un instant, on va parler de votre nouveau polar historique. Ça se passe à Paris en 1942. C'est Oscar Wagner a disparu. C'est disponible depuis le 1er mars. Vous avez fait quelques séances de dédicaces. On va en reparler, notamment à Auvers-sur-Oise sur le Salon du Polar. C'est toujours la matinale sur IDFM Radio.
Je laisse filer le temps, moi. Filer le temps, moi. Laisse filer le temps, moi. Et je laisse filer le temps.
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 Comme le jour, comme la nuit, l'amour et tout. Ce qui est aussi beau que provisoire. Comme toujours, comme un coup de foudre, l'enfance a fui comme l'eau entre mes doigts. Et j'ai laissé filer le temps.
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 Jean-Christophe Porte est toujours avec nous, auteur de romans historiques valdoisiens. Depuis combien d'années déjà vous êtes sur le Val-d'Oise?
Ça doit faire une quinzaine d'années, je pense, 10-15 ans.
Et vous êtes né où?
Moi, je suis né à Rueil-Malmaison.
Ah, bah c'est à côté, c'est 92.
Je suis un type de la banlieue et j'ai vécu à Paris pas mal de temps, puis je suis revenu en banlieue, mais ailleurs.
On parle de vos différents romans, on survole un petit peu votre carrière de journaliste. Vous avez toujours été passionné par ça, mener l'enquête, même dans votre chambre quand on est enfant, on s'imagine des histoires, des aventures, on prend une loupe par exemple, on se met un chapeau sur la tête et puis on essaye d'enquêter aux quatre coins de sa maison, de son appartement. Ça vient de là un petit peu aussi, le fait d'être journaliste, le fait d'écrire des romans historiques ou pas du tout?
Oui, si, si, beaucoup, parce que, enfin, moi, quand j'étais enfant, c'est vrai que j'ai passé vraiment mon enfance à imaginer des histoires. À l'époque, c'était des petits soldats ou à jouer des héros imaginaires. Ça, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup lu Tintin aussi. Et puis après, c'est vrai que journaliste, bah, c'est un métier qui vous permet d'aller voir vraiment ce qui se passe sur le terrain et d'aller au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit. Ou de ce que disent les autres. Donc c'est vrai que c'est cette démarche-là en fait que je continue à avoir aujourd'hui.
Et quand vous avez fait des documentaires du coup pour la télé, vous étiez souvent en lien avec les forces de l'ordre, etc. Ou même les forces de l'ordre des fois venaient vers vous parce que vous aviez peut-être plus d'informations que...
Non, parce que moi j'ai fait quelques sujets sur les gendarmes ou la police scientifique. J'ai pas fait beaucoup de faits divers parce que j'avais pas tellement envie de voir les victimes en fait. J'avais pas tellement envie d'aller voir des victimes pour leur demander ce qu'elles pensaient. Donc j'ai pas fait beaucoup d'enquêtes. Mais les enquêtes à la télévision c'est toujours compliqué parce que en vrai ça prend énormément de temps et donc c'est compliqué de dire on va suivre une enquête parce que si ça s'étale sur 6 mois, en fait c'est impossible à filmer. Donc on peut suivre je sais pas les gens de la BAC, on peut suivre les policiers en intervention ou les gendarmes, mais on peut difficilement faire des enquêtes. Mais c'est vrai que j'ai été amené à côtoyer ce milieu-là comme d'autres aussi et ça c'est bien au moment d'écrire parce qu'on voit comment ils travaillent, comment ils sont vraiment.
Et journaliste, du coup, ça s'est arrêté quand exactement ?
Bah ça s'est arrêté à peu près au moment où je me suis dit que j'allais écrire à plein temps, donc c'est 2017, voilà, c'est à ce moment-là. Le premier roman est paru en 2015 et en 2017, comme ça continuait à marcher un petit peu, je me suis dit, je vais continuer dans cette voie-là. Donc, c'est ce qui s'est passé.
Donc, durant plusieurs années, c'était d'écrire quand même des enquêtes avec le personnage de Victor d'Auterive. Et à un moment donné, vous avez en quelque sorte un peu dérivé, laissé ce personnage de côté, mais pour revenir bien évidemment dessus. Et entre donc les enquêtes de Victor d'Auterive, vous éditez de temps en temps des livres et toujours des polars historiques en général.
Alors il y a cette série de polars historiques qui s'appelle Les Enquêtes de Victor d'Auterive, donc j'en suis au tome 7 aujourd'hui. Et en fait au moment du confinement, ça fait longtemps que je m'intéressais à la période de la Deuxième Guerre mondiale et de l'après-guerre, et je me suis dit je vais écrire une histoire mais que j'avais depuis longtemps dans la tête, et donc c'est devenu le tome 1 de cette série. Donc il y aura au moins 2 tomes, et puis après j'espère que ça va continuer, qu'il y aura des lecteurs pour la suivre.
Toujours aussi passionné, en tout cas, et l'écriture vient aussi assez rapidement. Ça dépend pour tel ou tel roman. Arrêtez, vous revenez ou...
Non, c'est vraiment un travail. Donc, c'est une fois qu'on a pris l'habitude, il arrive vraiment un moment où j'ai vraiment envie d'écrire l'histoire, où j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages. Et donc, c'est comme ça que j'écris, voilà, tout simplement. Et donc, c'est vrai que ça vient assez naturellement, mais bon, alors, parfois, il va y avoir une journée où j'écris 2-3 pages péniblement, et puis d'autres journées où ça va venir beaucoup plus facilement. Donc, mais c'est vraiment une fois que c'est commencé, moi, j'ai du mal à me dire, je vais prendre mon temps, et voilà, il sera fini quand il sera fini, ça prend 2 ans, c'est pas grave, c'est pas possible. Mmh. C'est comme quand je lis un livre, si ça me plaît, je vais pas dire je vais le terminer tranquillement dans 2 ans. Non, j'ai vraiment envie d'aller au bout assez rapidement en fait.
Donc le dernier s'appelle Oscar Wagner a disparu. Là, on est une enquête qui se passe à Paris en 1942. C'est à Pigalle, plus précisément. On connaît ce quartier, très animé, hein, avec son Moulin Rouge, avec ses théâtres, avec ses sex shops. Vous aviez du coup cette ambiance-là, un petit peu, ou pas ? Il n'y avait peut-être pas tout non plus en 1942. Ah si, le Moulin Rouge, il existait déjà.
Il y avait le Moulin Rouge, il n'y avait pas de sex shop, parce que ça n'existait pas encore, mais il y avait beaucoup de cabarets, de boîtes de nuit, et en fait c'était vraiment le haut lieu de la pègre à l'époque. Alors donc il y avait beaucoup de voyous, de prostitution, etc., mais il y avait aussi la haute société qui venait comme on dit s'encanailler. Donc en fait c'était vraiment c'était un peu différent d'aujourd'hui en fait, hein. C'était vraiment un quartier effectivement très vivant, avec beaucoup d'animation la nuit. C'était un quartier de nuit en fait. Et en fait il se trouve que cette série, j'ai voulu changer de type de personnage. Donc il y a un des deux personnages qui est un voyou corse, voilà, qui a fait son trou dans le milieu et qui possède une boîte de nuit, mais il travaille aussi pour les services secrets. Et en fait il est amené à tuer un Allemand qui s'appelle Oscar Wagner, et ce Oscar Wagner, en fait, détenait un secret qui intéressait beaucoup de monde, y compris l'intelligence service. Et donc, c'est comme ça que ce voyou qui s'appelle Mo les yeux bleus, il a un surnom, va être amené à croiser une fille qui s'appelle Lizzie, qui est britannique en fait, mais qui travaille sous couverture en France et qui elle aussi s'intéressait beaucoup à Oscar Wagner. Et donc voilà, l'histoire va se nouer là-dessus.
Il y a toujours une femme aussi dans vos romans en règle générale, ou même plusieurs.
Alors il y a toujours des femmes, parce que c'est bon, c'est pas Tintin, donc c'est vrai que il y a toujours des histoires d'amour. Alors la série d'Autrive, Victor, il est différent parce que c'est un jeune aristocrate, voilà, qui est toujours hésitant, qui a un code de l'honneur et qui sait pas exactement comment diriger sa vie amoureuse. Et il est très jeune. Là, le héros est tout à fait différent puisque c'est un voyou, et donc il dirige des boîtes de nuit, mais aussi des maisons de passe. Donc il a un caractère complètement différent. Mais en fait, c'est aussi un personnage qui a des remords dans sa vie, parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais quelque part, il a pas eu le choix. Donc c'est voilà, c'est vraiment un autre type de personnage, et qui effectivement a une autre façon de voir les femmes, qui est totalement différente. Et puis là, il est vraiment à égalité dans ce roman avec un autre personnage, qui est une femme qui s'appelle Lizzie, voilà, qui est une aristocrate, qui a beaucoup de caractère et qui s'est lancée dans l'espionnage comme ça, un peu par hasard.
Et vous essayez de nous montrer aussi qu'à l'époque, c'était compliqué pour les forces de l'ordre de rentrer dans ce quartier de Pigalle aussi, comme il y avait pas mal la mafia et tout. C'était un environnement assez protégé.
C'était un environnement, oui, où c'était vraiment un haut lieu de la pègre. Hein, donc tout le monde savait très bien que les boîtes de nuit, les bars, il y avait des maisons de passe à l'époque, tout ça était tenu par la pègre. Donc il y avait une espèce de milieu trouble qui se faisait, avec des policiers qui parfois étaient corrompus pour laisser faire, et où parfois essayaient d'enquêter, mais c'était compliqué. Donc ça raconte ça sous l'occupation, ce qui rend les choses encore plus compliquées.
C'est pas évident quand on habite comme ça dans un tel quartier. Finalement, on est habitant, on peut rien faire. Si la police nous aide pas, on laisse faire.
Alors c'était une délinquance qui était assez différente.
Parce que ça existait en plus.
Oui, hein. ça existait, mais la population, je pense, c'était assez différent. C'est-à-dire que voilà, il y avait des institutions qui étaient tenues par la pègre, mais il y avait pas, comme il y a aujourd'hui, du trafic de drogue en pleine rue. Il y avait pas tout cet aspect-là des choses. Il y avait pas forcément des violences. C'était vraiment cantonné au milieu et aux policiers en fait.
Donc, 300 pages à chaque fois pour un roman en règle générale.
Alors oui, j'essaie de faire, c'est un des romans un peu conséquent, parce que je pense que les lecteurs d'historique ou de thriller historique aiment bien plonger dans l'histoire, et donc c'est vrai que si ça dure que 200 pages, c'est un peu frustrant en fait.
C'est pas grave, il y a une suite après.
Alors c'est une suite, mais c'est une autre histoire, donc voilà, et je pense que voilà, il faut quand même une certaine durée pour profiter entre guillemets vraiment du décor et des rebondissements des personnages et de l'histoire, de la grande histoire.
Quand vous avez fini d'écrire par exemple ce roman Oscar Wagner a disparu, qui vient de sortir chez Hugo Thriller depuis le 1er mars, donc c'est un ouf de soulagement en quelque sorte, et puis est-ce que vous prenez le temps de tout relire?
Ah oui, oui, ça, ouais. Je relis, en fait j'écris assez rapidement en quelques mois. Et ensuite, je laisse reposer en quelques mois aussi. Et là, je relis beaucoup, en fait. C'est la période qui est pas forcément la plus sexy, parce que en fait, ce livre-là, là, tel qu'il est, dans vos mains, j'ai dû le relire 10, 15 ou 20 fois. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, je vais peut-être arrêter, parce que...
Mais parce que de revenir dessus, vous avez peut-être envie de changer des petites choses aussi, non?
Bah, on change toujours des petites choses. Après, c'est un travail qui se fait avec l'éditeur, où on dit, voilà, là, le personnage... ce qu'il fait, c'est pas clair, ou alors là, bon, j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit, ou alors là c'est un peu long, ou alors là c'est pas assez développé. Donc voilà, c'est tous ces trucs là et puis après c'est toutes des petites corrections de voilà, c'est une expression qui nous plaît que à moitié, des choses comme ça, mais on peut revenir comme ça à l'infini. Donc à un moment on décide que c'est fini et que voilà, ça va partir à l'imprimerie.
Oscar Wagner a disparu, donc c'est une sorte de chasse à l'homme, hein, sous l'occupation. C'est sorti sorti chez Hugo Thriller, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, depuis le 1er mars. Et vous avez déjà dédicacé ce roman. C'était notamment le 12 mars, je crois, à Auvers-sur-Oise, hein, dans le cadre du Salon du Polar. C'était pas votre première présence non plus ?
Alors non, j'étais venu, je crois, déjà une fois ou deux. C'est assez compliqué de faire le compte parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, donc il y a eu tous les salons, en fait, ont été interrompus. Mais c'est vraiment un salon qui prend de l'ampleur, parce que cette année, il y avait une trentaine d'auteurs, mais alors je parle pas pour moi, mais certains auteurs vraiment réputés dans le milieu du polar, donc et du monde qui vient de plus en plus nombreux. Donc c'est un beau salon, j'espère qu'il va continuer à prospérer.
Certains sont venus pour vous, d'autres sont venus pour d'autres auteurs, mais du coup ça intrigue, il y a des visiteurs qui du coup vous connaissez pas peut-être et qui se sont intéressés à
vos romans.
Oui,
c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens qui sont venus pour le chercher, donc ça fait plaisir évidemment. Et puis il y a d'autres qui ont entendu parler de vous sur les réseaux sociaux ou par d'autres lecteurs ou des libraires qui vous disent ah bah tiens, ça fait longtemps, je vais peut-être prendre je sais pas le premier de la série ou le dernier sorti, ça dépend. Et puis d'autres qui sont curieux vraiment et qui vous demandent ce que c'est. Parfois ils vous disent merci monsieur et puis ils passent leur chemin, et puis parfois ils disent bon bah je vais peut-être tenter. Donc voilà, ça sert à ça, les salons.
Justement, par rapport aussi aux enquêtes de Victor de Terrive, est-ce que c'est embêtant si je prends le tome 3 et je prends le tome 7? Est-ce qu'il faut quand même que je...
Non, c'est pas...
pas forcément une continuité, c'est des enquêtes qui elles se détachent.
Elles sont vraiment détachées les unes des autres, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les prendre séparément. Et moi, j'ai fait ça parce que en tant que lecteur, si je prends une série, je fais pas toujours attention à ça, et c'est le troisième livre de la série et que je comprends rien parce qu'il y a 12 personnages qui sont là mais qui font pas grand chose, mais qui sont là uniquement parce qu'ils étaient là avant et que l'auteur a voulu les remettre. Moi, personnellement, ça m'agace. Donc j'essaye de faire en sorte que vraiment chaque livre est indépendant l'un par rapport aux autres, et que les personnages présents ont vraiment un rôle. Donc c'est-à-dire qu'on se pose pas la question de savoir ce qu'ils font là. Après, il y a un côté chronologique et un côté évolution personnelle du personnage, donc c'est un peu mieux de commencer par le début. Mais si on lit le dernier, on comprend tout, donc voilà, c'est fait pour ça.
Oui, dans le tome 1, par exemple, il y a un personnage, je sais pas à quoi il ressemble, mais peu importe, un personnage intrigant, est-ce que ce personnage-là, il pourrait être dans le tome 3? Non, en fait.
S'il joue un rôle dans le tome 3, il sera là.
Il peut y être, mais très furtivement, en fait.
Le principe, c'est que si le personnage qu'on a déjà vu joue un rôle, il apparaît. Et si moi je pense que ça me ferait plaisir de le faire revenir parce que je l'aime bien, mais qu'il joue pas de rôle, je le fais pas apparaître. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Christophe Porte d'être venu. D'autres séances de dédicaces là sur le Val d'Oise ou en Île-de-France?
En Île-de-France, il va y avoir le salon du livre de Paris. Je crois que c'est le 22 ou 23 avril. Et puis sur Paris, non, il y en a pas tellement. Il y en a, mais c'est en 91 et c'est au mois de juin, donc ça c'est un petit peu lointain.
Donc on pourra venir ce mois-ci à la Porte de Versailles.
Exactement.
Pour échanger un petit peu avec vous.
Ce sera avec plaisir.
Merci encore Jean-Christophe Porte. Mon retour à Margency, votre dernier roman, c'est Oscar Wagner a disparu. La matinale se poursuit maintenant sur IDFM Radio.